Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment la morue a-t-elle disparu et la coquille Saint-Jacques est-elle revenue ? Avec Sylvie Dufour.
La morue et la coquille Saint-Jacques. On dirait une fable de La Fontaine où l'on apprendrait comment l'une a disparu et l'autre est revenue. Mais quelle en serait la morale ? Voilà ce que nous allons demander à notre invitée Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors depuis le XVIe siècle, la pêche à la morue fut une activité durable. Et puis vint le progrès, avec des guillemets. Le progrès de la modernité grâce auquel, aujourd'hui, on ne pêche plus de morue. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
L'extraordinaire abondance de la morue, qu'on appelle aussi cabillaud, dans les eaux du nord-ouest de l'Atlantique, et en particulier sur les bancs de Terre-Neuve et du Labrador, a déclenché une pêche qui a perduré plusieurs siècles et qui a marqué l'histoire des pêcheurs et des ports européens. Ce sont d'abord les pêcheurs basques, dans la poursuite de la pêche à la baleine, qui aurait relevé dès le XIIe siècle cette extraordinaire abondance de la morue à Terre-Neuve, ce qui a ouvert la voie à une pêche de plus en plus importante, avec des pêcheurs ensuite venus de France, d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal. On considère que cette pêche qui a perduré depuis le XVIe siècle pendant près de 500 ans, a permis le développement économique de nombreux ports de pêche européens, comme en France, Dieppe, Honfleur, Fécamp, Saint-Malo ou La Rochelle. Elle a aussi conduit au développement de toutes sortes d'activités, des marais salants, d'industries de conservation, de salaison, de séchage, et tout un commerce, et aussi à des pratiques culturelles, gastronomiques et médicinales. Elle a ainsi été à la base de notre brandade, aussi dans d'autres pays des acras, du fish and chips, des nombreuses recettes portugaises, et aussi de l'huile de foie de morue pour la vitamine D. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous en reste ? Il nous en reste, pour la mémoire des marins terre-neuvois et des grandes pêches de Terre-Neuve, en fait, des expositions et des musées, comme le musée des pêcheries de Fécamp qui est situé dans une ancienne sécherie de morue, ou le centre d'interprétation et d'histoire de la morue qui vient d'ouvrir en 2020 au cœur de Lisbonne.
De l'abondance à rien, que nous apprend cette histoire en termes d'atteinte du fameux point de non-retour écologique ?
Oui, c'est vraiment un terrible exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant près de 500 ans, cette pêche abondante à la morue, sur les bancs de Terre-Neuve et du Labrador, a pu perdurer, basée sur des techniques de pêche traditionnelles, ciblées, au moyen de lignes comme la palangre. Mais à partir des années 1950, ces techniques traditionnelles ont été remplacées par les grands chalutiers avec des sonars venus de tout pays du monde, ratissant toutes les zones, même les zones les plus profondes, ce qui a d'abord conduit à des records miraculeux de tonnage de pêche, mais a été suivi rapidement d'un effondrement des captures dès 1970. Ça a donné une alerte, des prises de mesures par le gouvernement canadien, par exemple l'exclusion de pêcheurs étrangers, la mise en place de limites de capture, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas empêché l'effondrement total de se poursuivre. Alors, il y a eu un moratoire de la pêche qui a été déclaré en 1992, mais la morue n'est pas revenue. Et aujourd'hui, les populations de morue dans cette région atteignent seulement quelques pourcentages de ce qu'elles étaient. Ce qui laisse cette extraordinaire aventure de la pêcherie de morue au livre d'histoire et au musée. Alors, le fait que la morue ne soit pas revenue malgré l'arrêt de la pêche a fait dire à certains que donc, ça n'était pas la pêche qui était en cause. Mais c'est bien le contraire. C'est la surpêche industrielle qui a entraîné un point de non-retour dont on peut comprendre en fait les mécanismes. Alors, qu'est-ce que sont ces mécanismes ? D'abord, il faut savoir que la morue, c'est une espèce à croissance relativement lente et un âge relativement tardif pour la maturation sexuelle. On considère 5 à 8 ans où elle commence à pouvoir se reproduire. Mais aussi, comme les autres poissons, elle continue sa croissance corporelle à l'âge adulte et elle atteint environ une quinzaine d'années. Donc ça prend du temps pour rétablir une population avec sa pyramide des âges. Et la surpêche, elle a capturé majoritairement les grands poissons et a entraîné aussi une transformation de l'espèce avec les disparitions des animaux les plus grands, non seulement par le fait qu'ils étaient pêchés, mais aussi par la sélection ciblée vers ces animaux. Or, les petits poissons ont des capacités de reproduction et des capacités physiologiques beaucoup plus faibles que les grands. Une autre raison, c'est aussi que l'effondrement des populations de morues a laissé le champ libre à l'expansion d'autres espèces de poissons, en particulier les proies des grandes morues, comme des harengs ou des caplans, qui sont en fait aussi eux-mêmes des prédateurs des larves de morues, ce qui empêche le retour de celles-ci. On peut se dire qu'en mer, la gazelle peut en fait manger le bébé du lion. C'est ainsi que l'effondrement des populations de morues, accompagné d'une transformation des capacités de l'espèce et d'un changement complet de l'écosystème, a entraîné ce non-retour. De ce drame, on espère qu'il sera tiré les leçons pour promouvoir des pêches durables, sélectives et artisanales, limiter les captures et avoir une compréhension globale, écosystémique des pêches.
L'envers de cette catastrophe que vous venez de nous raconter, c'est le miracle de la coquille Saint-Jacques qu'on a réussi à préserver en Normandie et en Bretagne. Racontez-nous comment ce sauvetage s'est organisé et quel cercle vertueux a-t-il installé ?
Et oui, venons-en avec bonheur à la coquille Saint-Jacques, ce délice de notre gastronomie. C'est un exemple de cercle vertueux, partagé par tous les acteurs pour une pêche durable. En France, en accord avec les pêcheurs, avec tous les professionnels, la pêche de la coquille Saint-Jacques est strictement réglementée. Elle n'est autorisée que de façon saisonnière, d'octobre à mi-mai, en quantité limitée et avec une taille minimale. Il faut souligner que les pêcheurs français sont les seuls à s'interdire de pêcher l'été pour favoriser la reproduction. De plus, des actions de repeuplement peuvent être réalisées depuis la création d'une écloserie de la coquille Saint-Jacques en Bretagne. On peut citer aussi des labels de qualité, comme le label rouge, qui ont été mis en place pour promouvoir auprès des mareyeurs et des consommateurs les produits de grande qualité de cette pêche durable. Alors, toutes ces actions synergiques en faveur d'une pêche durable de la coquille Saint-Jacques ont permis une remontée et un bon état de cette ressource, avec une pêche artisanale, durable, éco-responsable, qui permet le maintien de cette activité de pêche dans les ports de la Manche, et aussi le développement de toute une série d'activités socio-économiques, gastronomiques, culturelles, touristiques qui sont liées. On célèbre la fête de la coquille Saint-Jacques chaque automne à Port-en-Bessin, en Normandie, et chaque printemps à Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne, avec de nombreuses animations. Tout cela, c'est vraiment au bénéfice de tous, depuis les pêcheurs, jusqu'au développement des activités socio-économiques pour les habitants de ces régions. Et ça va jusqu'à tous les amateurs de la mer et de ses délices. C'est vraiment un exemple vertueux.
Alors justement, à l'aune des deux exemples que vous venez de nous narrer, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer pour l'avenir ? Quelle activité halieutique il nous faut privilégier ou au contraire bannir ?
Oui, il faut vraiment tirer les enseignements de ces exemples. Pour un exemple positif, on peut citer aussi pour les poissons l'exemple récent du thon rouge. Le thon rouge était en danger du fait de la surpêche, avec une demande croissante, en particulier avec le marché, le goût du sushi. Et la mise en place d'une politique de quotas en Méditerranée et en Atlantique Est a apporté des résultats positifs et permis le retour d'une pêche et de toutes les activités qui y sont liées. Alors, les enseignements à tirer aujourd'hui pour une pêche durable, éco-responsable et qui préserve la biodiversité et les écosystèmes océaniques sont qu'il faut bannir la surpêche industrielle non sélective telle que pratiquée par les gros chalutiers de l'industrie. Il faut des réglementations, des quotas, il faut respecter des saisonnalités en lien avec les cycles de vie. Un autre point aussi, c'est qu'il faut limiter ce qu'on appelle la pêche minotière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cette pêche de petits poissons destinés à être transformés en farine ou en huile. Et cette pêche, elle porte sur des petits poissons qui sont par ailleurs délicieux en eux-mêmes et très nutritifs, par exemple des sardines, des anchois. Ces farines, sans même parler de leur usage pendant longtemps pour nourrir des poulets qui avaient le goût de poisson, sont utilisées aujourd'hui largement en aquaculture pour le saumon, par exemple, mais avec un rendement écologique absurde. Il faut plusieurs kilos de petits poissons pour faire un kilo de saumon. Heureusement, des voies nouvelles pour une aquaculture durable sont prospectées actuellement, comme la production de farine à base d'élevage d'insectes. Alors, à l'inverse de la pêche industrielle, il faut promouvoir la pêche artisanale, durable, éco-responsable, ciblée, qui permet à la fois de maintenir un bon nombre d'emplois de petits pêcheurs et de développer toute une panoplie de secteurs d'activité locales, y compris touristiques et culturels.
Pour terminer, face aux gros chalutiers, on retrouve les petits pêcheurs dont vous disiez qu'il fallait les préserver. Comment est-ce qu'on fait justement pour protéger leur activité, le tissu économique local et les ressources de l'océan ?
On le voit comme avec l'exemple, même en France, la coquille Saint-Jacques, c'est le rôle et le bénéfice commun de tous les acteurs, depuis les pêcheurs, les acteurs socio-économiques et culturels, des élus aux citoyens de promouvoir cette pêche durable. Je peux mentionner avec plaisir aussi l'exemple de l'implication des ONG comme l'ONG Éthique Océan, qui publie chaque année en étroite collaboration avec les scientifiques le guide des espèces à l'usage des professionnels pour promouvoir un marché des produits de la mer durable qui est à destination aussi bien des mareyeurs, des poissonniers que des supermarchés. On peut aussi citer maintenant les actions de chefs et d'écoles de cuisine françaises qui, en lien aussi avec les scientifiques, enseignent et promeuvent la mise en valeur de ressources marines durables dans leurs recettes. Mais il faut bien rappeler que c'est une responsabilité internationale des pays riches envers les pays pauvres. Et là, on peut citer le terrible exemple actuel de la surpêche industrielle des ressources marines d'Afrique de l'Ouest, via non seulement une piraterie illégale par des gros chalutiers internationaux, mais aussi via des accords légaux de droits de pêche vendus à des pays développés, dont l'Europe, et avec des conséquences désastreuses localement pour les sociétés et les économies. Au Sénégal, par exemple, les conséquences de cette surpêche internationale va dans la destruction de la pêche locale qui est menée en pirogue, avec la perte des emplois locaux, non seulement la perte des pêcheurs eux-mêmes, mais de toutes les activités commerciales qui en dépendent, et la perte des références culturelles, comme les plats traditionnels à base de ces poissons, et même des activités touristiques locales. Ce pillage des ressources par piraterie ou par des accords légaux, mais injustes, conduisent à la perte des emplois et des activités locales et sont un facteur de renforcement de l'émigration des populations. On a une situation similaire en Afrique de l'Est ou dans le Pacifique. Donc cette question du pillage des ressources s'ajoute aux problèmes climatiques auxquels font face tous ces pays du Sud. Et on rejoint là à nouveau le problème de l'émigration climatique qui subit les influences du réchauffement, mais aussi cet effet de pillage de ressources. Il faut promouvoir le maintien d'une pêche locale, artisanale, durable, équitable, non seulement sur nos côtes, mais aussi mondialement. C'est en effet une question de responsabilité et de justice internationale.
Donc on peut craindre les pillages de ressources, mais on peut aussi espérer la mise en place de cercles vertueux de préservation. Merci infiniment de nous avoir éclairé, Sylvie Dufour.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «